Et voilà. Erev Tov, donc Erev Tov, les Koulam. Erev Tov, et on est lancé pour notre limoud de la semaine sur les grands personnages de la résurrection moderne du peuple juif, nos grands maîtres qui ont accompagné nos générations, qui ont accompagné la résurrection du peuple juif sur sa terre. Et aujourd'hui, après avoir parlé de Reb Shlomo Karlebach, après avoir parlé du Rav Shlomo Goren, du Rav Anazir, Rav David HaKohen, eh bien, ce soir, enfin, il était temps qu'on s'attaque à un bon séfarade bien de chez nous. Et pourtant, on va voir que malgré le fait qu'il est un pur produit du Beth Amidrash de Chachmé Tunis, eh bien, on verra à quel point le Rav Meir Yehuda Getz ne se considérait pas comme un séfarade, mais je suis en train de, comme on dit en hébreu, le'akdim et ha'meouchav. Alors, venez, on va se... Hein, vas-y.
Une idée, on pourra faire aussi le Rabbi Moshe Chalfon à Cohen.
Et bien alors, justement, on va commencer par parler de lui. On va commencer par parler de lui, évidemment, parce que, eh bien, le Rav Getz va grandir dans un Beth Amidrash qui est justement le Beth Amidrash de Rabbi Moshe Chalfon à Cohen. C'est-à-dire que le Rav Getz est l'élève de son élève. OK? Donc, voilà, c'est, je pense, le mieux pour commencer. Le Rav Getz ne vient pas de nulle part, les amis. On est embarqué directement à Tunis, enfin pas exactement à Tunis, dans une petite ville à côté de Tunis, mais Meschané. On est embarqué directement dans cette ambiance-là. Il faut savoir que le Rav Getz va naître en 1924, et donc, eh bien, il grandit dans cette ambiance-là, dans ce Beth Amidrash, qui a une particularité. Le Beth Amidrash lancé par le Rav Moshe Chalfon HaKohen, et qui va être repris ensuite par le Rav Matzliach Mazouz, eh bien, c'est un Beth Amidrash qui, dès son plus jeune âge, veut donner à l'enfant juif, quand il étudie, l'envie de se poser les bonnes questions. À savoir, lorsque l'enfant arrive devant un verset qui est compliqué, qui lui amène des questionnements, eh bien, le Rav Moshe Chalfon HaKohen, ce qu'il enseigne à tout le monde, c'est de dire, si tu as une question, c'est qu'il y a une question. Et n'essaye pas de te la jouer. Non, mais ce n'est pas une question parce que nos sages ont déjà répondu. S'il y a une question, alors il y a une question. Et donc, tu dois te creuser la tête, essayer de comprendre qu'est-ce qu'a voulu dire le verset, qu'est-ce qu'a voulu dire Rashi. Et donc, ça nous permet d'avoir une compréhension de la Torah qui ne fait pas abstraction de ce que moi je ressens quand je l'étudie. Et ça va créer des Talmidei Chachamim qui sont vrai et honnête dans leur rapport avec la Torah. C'est dans cette ambiance-là que le Rav Getz va naître, si vous voulez. Parce que la yeshiva de Reb Moshe Chalfon HaKohen marche très bien à Djerba, mais puisque ça marche très bien, il veut commencer à créer des succursales, et le Rav Matzliach Mazouz va créer une succursale à Tunis, de la yeshiva Tkiser HaChamim à Tunis. Et le Rav Getz est un élève de cette yeshiva. Maintenant, comment vous montrer déjà quelle est l'ambiance du
T'entends
Rav?
aussi Alfred ou pas?
Pardon?
T'entends bien? Parce que moi, je t'entends très très mal.
Moi? M'entends? M'entends pas?
Ah là, c'est bien.
C'est bon. Et donc, je disais, comment est-ce qu'on va essayer de comprendre dès le départ cette recherche de vérité? Le Rav Getz vient d'une famille de rabbanim, et dès son plus jeune âge, lorsqu'il a déjà 6 ans, eh bien, son père va lui faire apprendre Ta'ameh HaMikra et la lecture de la Torah comme il se doit, avec tous les Ta'amim tunisiens, par un Mélamed. Maintenant, quelle est la Shita, l'ambiance, l'idée du Mélamed? C'est qu'à chaque fois qu'il va lire une paracha, une partie, comme il se doit, eh bien, il lui donnera une pièce. Lorsqu'il fait une erreur, il devra rendre la pièce. Eh bien, à un moment donné, il lit, il a reçu plein de pièces, et là, le Mélamed lui dit, tu as fait une erreur. Mais attention, tu as deux options. Soit je te dis où tu as fait une erreur, mais à ce moment-là, tu me rends toutes les pièces que tu as récupérées jusqu'à maintenant, ou alors, une erreur par page, ça passe. Le Rav Getz, qui est à ce moment-là seulement Meir Yehuda, ne se fait pas prier tout de suite. Il dit, mais hors de question, tu reprends toutes les pièces. Je veux savoir quelle est mon erreur. Dès son plus jeune âge, la recherche d'une vérité profonde. Alors, le Rav Getz, comment vous le décrire? Il a eu énormément de périodes dans sa vie. La première période de sa vie, donc on a dit, on est en Tunisie. Et en fait, très rapidement, il a à peine l'âge de 15 ans que la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, va arriver jusqu'en Tunisie. Et comme vous le savez, eh bien, quand on parle de Deuxième Guerre mondiale, on parle de nazis, on parle de camps de concentration. Et oui, vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous le redis, les camps de concentration ne sont pas seulement l'apanage de la Pologne. Il y a eu des camps de concentration également en Tunisie. Certes, au Maroc, il n'y en a pas eu, parce que le roi du Maroc a décidé de protéger ses juifs pendant la Shoah. L'Algérie, eh bien, c'était la France, donc directement envoyée en France. Mais la Tunisie, qui était un protectorat français, eh bien, il y a eu des camps de concentration, des camps de travail en Tunisie. Les nazis étaient là-bas. Et le Rav Meir Yehuda Getz, qui à ce moment-là, encore une fois, n'est que Meir Yehuda, eh bien, va être pris dans les travaux forcés des camps de concentration de Tunisie et il va être interné dans le camp de Birzetz en Tunisie. Là-bas, eh bien, on ne va pas faire un descriptif de la vie dans les camps. On sait à quel point c'est compliqué. Mais ce qu'on va pouvoir dévoiler, c'est un événement qui va marquer pas seulement le Rav Getz, mais toutes les personnes qui sont autour de lui. Les nazis avaient décidé un jour de s'amuser des juifs qui étaient là. Et donc, au moment où arrivait la pause du déjeuner, ou la pause du repas, eh bien, les nazis ont d'abord décidé qu'il fallait jeter tout le repas qui avait été préparé pour les prisonniers, pour les déportés, et eux mangeaient leur repas à eux, et les restes, les dernières pérourim, les derniers trucs qui restaient, ils les ont jetés par terre au sol devant les prisonniers juifs pour que ce soit ça leur repas. Tous les prisonniers qui étaient là se sont jetés au sol pour récupérer un petit peu de nourriture, ils n'avaient pas à manger. Et Meir Yehuda est resté debout. Il est resté debout, il n'a pas bronché. Il n'avait pas mangé de la journée, évidemment, il avait travaillé toute la journée. Un commandant SS s'approche de lui et lui dit « Ramasse et mange !» Et Meir Yehuda dit « Nein !» Il dit « Ramasse et mange !»« Nein !» Je ne m'abaisserai pas et je ne m'affligerai pas devant toi. À ce moment-là, il sort son arme et veut lui mettre une balle dans la tête. Et comme vous pouvez l'avoir vu dans la liste de Schindler, dans le film, eh bien, le pistolet ne marche pas. Et après avoir essayé deux fois et que ça ne marche pas, il le regarde droit dans les yeux et il part. Est-ce qu'il a été appelé ailleurs? Est-ce que, je ne sais pas quoi vous dire. Mais il s'en va et Meir Yehuda ne sait pas prosterné devant le ravisseur nazi. Meir Yehuda, à ce moment-là, se dit qu'il ne peut pas attendre le bon vouloir de ses persécuteurs pour sortir de cet enfer. Et donc, il va guetter le moment où il va pouvoir s'enfuir d'ici. Et ça arrive. Ça arrive en 1943. En 1943, il a 17 ans et il y a une attaque des Anglais qui vont bombarder toute la région, y compris le camp de Birzetz. Et lorsqu'il y a un bombardement qui est vraiment juste sur le camp, les nazis sont complètement perturbés, les gardiens sont complètement affolés et Meir Yehuda va profiter de la cohue et va réussir à s'enfuir du camp de Birzetz. Il s'enfuit du camp et va se cacher pendant toute la nuit des patrouilles nazies qui vont essayer de retrouver les fuyards. Ils vont en retrouver énormément, mais Meir Yehuda ne sera pas retrouvé. il va faire le chemin à pied, les 60 kilomètres qui le séparent de sa maison, et il va rentrer à la maison. Vous allez me dire, bah, les nazis vont aller le chercher tout de suite. Non, parce qu'à partir du moment où le camp a été bombardé, eh bien, les nazis quittent la zone de Birzetz et replient leurs forces à un autre endroit parce que la marche de l'Afrika Korps est en train d'arriver. En d'autres termes, Meir Yehuda Goetz s'enfuit de chez les nazis et il réussit. Seulement, le jour où il s'enfuit n'est pas n'importe quel jour, c'est le jour de Tou Bishvat. Il deviendra pour lui le jour le plus important de l'année. Et il sera pour lui le symbole que maintenant, il ne peut plus rester à Tunis, il se doit de partir. Lorsqu'il revient, il est encore jeune, il continue ses études à la yeshiva, et dès l'âge de 19 ans, il est évidemment ordonné rabbin par le Rav Matzliach Mazouz. Il est ordonné rabbin, et à ce moment-là, son rôle, c'est de s'occuper un petit peu de la jeunesse de la région. Il racontera avec sourire que, évidemment, l'un des moments qui est pour lui un des moments novateurs, c'est lorsqu'il arrive dans la synagogue de Tunis, qu'il y a là-bas une quinzaine de jeunes garçons, des jeunes, 10 ans, à qui il est censé enseigner la Gemara, à qui il est censé enseigner la Torah. Et lorsqu'il leur dit, Yeladim Hamoudim et Tukim, Yala, on va étudier un peu la Torah. Il y en a un, il se rappelle, il s'appelait Yossi, qui n'a pas froid aux yeux, qui se lève et qui dit, Rabbi, on n'a pas envie. Il dit, ah bon, vous n'avez pas envie? Non, on n'a pas envie d'étudier. Il dit, ah bon? Et bien alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et bien, nous, on a envie de jouer au foot. Ah, vous avez envie de jouer au foot? Très bien. Mais alors, à ce moment-là, il va falloir attendre 5 minutes. Et les enfants ne comprennent pas trop ce qui se passe. Il part et revient 5 minutes plus tard en survêtement, en tenue de foot, et il dit, bah alors, on va jouer au foot. Et pendant tout le match de foot, il va leur balancer comme ça des messages de Torah, si bien qu'à la fin du match, les enfants viendront le voir et lui demanderont, est-ce qu'on peut s'asseoir et étudier un petit peu? Et à partir de ce moment-là, ils ne rateront plus un seul cours. Rav Goetz dira que ce moment-là a été le moment où il a compris que si on veut parler avec l'autre, il faut parler son langage. Donc, si on veut parler à des enfants, il faut parler le foot. Si on veut parler avec telle ou telle personne adulte, il faut parler leur langue. Et si on veut parler avec Akadosh Baruch Hu, il faut parler sa langue, mais ça, on y reviendra plus tard. Il est appelé. Il est appelé par un rêve. Ce rêve, il s'appelle Tzion. Ce rêve, il s'appelle Eretz Israël. Il est fondamentalement sioniste. Il a reçu ça du Rav Mazouz. Il a reçu ça du Rav Ron Cohen, qui n'a pas lui-même connu, mais c'est l'enseignement du Beit HaMidrash. Il est fondamentalement attiré par Eretz Israël. Et donc, il décide d'y aller. Mais attention, c'est pas tout seul qui veut partir. Il est l'homme qui fait avancer toute sa communauté. Tous les gens qui sont autour de lui prennent goût au rêve sioniste. Finalement, il va passer un an de transition entre Tunis et Israël en France, à Grenoble. Il reçoit la mission de la Sortnout Yehoudit de gérer les jeunes arrivants du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie pour les préparer à l'Alia. Il est mandaté par le Hapoel HaMizrahi. Il accepte évidemment avec plaisir. Il est un des jeunes rabbins qui monte, mais il a un rabbin tellement atypique. Tellement atypique parce que il a à peine une vingtaine d'années et à ce moment-là, mais comment vous expliquer? C'est un bonhomme qui parle évidemment l'arabe, puisqu'il vient de Tunisie. C'est un bonhomme qui parle l'hébreu sans aucun problème. Il a grandi au Beit HaMidrash. Il parle le français, évidemment. On est en Tunisie de l'époque. Mais j'allais dire, ces trois langues-là, c'est normal. Sauf que, eh bien, le petit jeune Rav Meir Yehuda comprend, comme je vous ai dit, que si on veut parler à quelqu'un, il faut savoir parler sa langue. Et donc, il se découvre une facilité pour les langues. Sauf qu'au final, eh bien, le Rav Goetz, c'est quand même quelqu'un qui va donc te parler français, hébreu, arabe couramment, pas de problème. Mais il parle aussi anglais, il parle aussi allemand, il parle aussi ladino, il parle aussi yiddish, il parle aussi roumain, il parle également turc. Il a le turc tranquilloum. il comprend pas mal l'italien, il parle l'espéranto. Bon, t'as compris, le bonhomme, c'est une tête. D'ailleurs, quand il est encore en Tunisie, en parallèle de ses études de rabbinat, eh bien, il est également, il termine son, comment dire, son diplôme de fac de droit de la Sorbonne. Non, mais je t'explique. Le bonhomme, il comprend que s'il veut avoir une compréhension de la Torah, il doit avoir une capacité à être présent dans tous les domaines du monde. Et finalement, le moment arrive. Finalement, 1948, il part. Enfin, il croit qu'il part en 1948, mais comme je l'ai dit, il va gérer le centre d'accueil des jeunes d'Afrique du Nord pendant un an, et c'est en 1949 qu'il part. Il part avec tous les jeunes qui étaient autour de lui, il a déjà eu le temps de se créer une communauté, et il part avec tous en Eretz Israël. Ils arrivent en Israël, et à ce moment-là, eh bien, le Rav Getz est dans un camp de transit, dans un camp de transit, comme tous les gens qui sont arrivés, dans ce qu'on appelait les Mahavarot, il habite dans une tente. Pendant des mois, ils habitent dans une tente. Lui, sa femme, Esther Messaouda, qui d'ailleurs, Esther Messaouda, la femme du Rav Getz, est une descendante directe du Or HaChaim HaKadosh. Ils vont s'installer donc dans une tente et diront les gens qui étaient autour d'eux, c'était la tente du Rav. Maintenant, la tente de l'extérieur, elle ressemblait à toutes les autres tentes des Mahavarot. Seulement à l'intérieur, la rabbanite Getz, elle faisait en sorte que la tente était un endroit où les gens avaient envie d'être. Il y avait toujours un tapis au sol, il y avait toujours une nappe blanche qui était posée sur les valises, entreposées les unes sur les autres, avec une petite fleur au-dessus, histoire de donner une ambiance accueillante à cet endroit-là. Très rapidement, le Rav Getz, alors qu'il est pour l'instant aux abords de Haïfa, il est donc, comme je l'ai dit, dans un endroit de Mahavarot, à côté de Haïfa, s'appelle Khalsa, à côté de Haïfa, et il travaille la terre là-bas, et il est content. Oh là là, comme il est heureux. Pour lui, travailler la terre à côté de Haïfa, c'est tout simplement la réalisation de ce qu'il a toujours étudié quand il était à Tunis. Sauf que, à un moment donné, on va lui demander de prendre la direction d'un moshav. D'un moshav dans le Galil Elyon qui s'appelle Ras El Ahmar. Ras El Ahmar, donc c'est un village qui a été abandonné pendant la guerre d'indépendance par les Libanais qui étaient là-bas. Et donc, il faut reconstruire et, si vous voulez, repeupler de juifs ce village. Rav Getz y monte avec sa communauté, mais en fait, pas vraiment. Il y monte seul au départ. Il y monte seul avec sa femme et ses maintenant 4 enfants. Il y a là-bas, dans ce village, qui est déjà un endroit de Olim Hadashim depuis la fin de la guerre, il y a des Turcs, il y a des Roumains, il y a des Marocains qui viennent d'arriver, il y a des Hongrois qui sont là-bas. Et alors qu'ils sont dans ce petit moshav, ils ont tous leur petit endroit où ils prient séparément et ils ne sont prêts à accepter de rabbin que le rabbin qui vient de leur communauté. Arrive le Rav Getz à Ras El Ahmar et la première chose qu'il fait, c'est de dire que vous n'avez pas compris. On est tous des Olim Hadashim. Nous ne sommes pas venus en Eretz Israël réaliser 2000 ans d'espoir de Kibbutz Galouyot pour continuer à être les témoins de la galoute. On n'est pas ici pour continuer à être des Turcs, des Marocains, des Hongrois, des Roumains. Il n'y aura ici qu'une seule synagogue. Il n'y aura ici qu'un seul peuple juif. On priera ensemble, on rira ensemble, on pleurera ensemble et on se mariera ensemble. Il change le nom du moshav. De Ras El Ahmar, le moshav devient Kerem Ben Zimra. Pourquoi Kerem Ben Zimra? Eh bien parce que il y a le Tana, Rabbi Yossi Ben Zimra, qui est enterré là-bas. Et à ce moment-là, il vit une vie extraordinaire pour lui. Il est Kolbo. Ça veut dire quoi, il est Kolbo? On a dit que c'était le rabbin. Non, mais t'as pas compris. C'est le rabbin, c'est le Moël, c'est le Shochet. Mais attention, il est rabbin. Il est exempté de l'armée parce qu'il a déjà 4 enfants. mais c'est pas une raison. Le Rav Goetz s'engage volontairement dans Tsahal, mais ne va pas faire un petit service vite fait. Il va faire un service complet. Il devient Katsin Kravi, Katsin de Solelot Meav Shtaim Shel Margemot. Il fait partie de Chela Totranim. Et donc, lorsqu'il revient après son service, lorsqu'il revient à Kerem Ben Zimra, je vous ai dit, il est le rabbin, le moël, le chochet, le marieur, le tout ce que tu veux. Et il est aussi le chef de toute la sécurité du Galil à Elion. C'est lui qui est responsable du Pikoud Hatzafon. Mais Kitsour, il est partout. Il est là partout. Mais d'un autre côté, les paysages de la Galilée, la proximité de tous ces tzadikim qui sont là-bas, eh bien, vont commencer à lui donner une dimension différente. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas à Kerem Ben Zimra, eh bien, les gens, au début, n'ont pas bien compris. On savait que Meir Yehuda Goetz venait de Tunisie, mais il ne se comportait pas comme ce qu'on attendait d'un Africain du Nord. Et donc, les gens lui ont demandé, « Mais quel Eda es-tu ?» En fait, ils ne lui ont pas demandé à lui. Ils ont demandé à sa fille. « Mais vous êtes de quel Eda ?» Et elle n'a pas compris la question, elle a été demandée à son père. Elle dit, mais papa, les gens me demandent, on est de quel Eda? Le Rav Goetz a répondu, Anachnu, Yehudim, Mimamlechet Yehuda. Nous, on est des Yehudim, des Juifs, de la royauté de Judée. Yehudim Pshutim. Il est accepté par tout le monde là-bas, justement parce qu'il est tout le monde. Et je vous ai dit, dans les montagnes de la Galilée, il commence à s'adonner à une nouvelle Torah. C'est là-bas qu'il va commencer à rentrer dans le monde de Torah Takabala. Sa fille aînée, raconte que il y avait des moments qui étaient des moments qu'on n'oublie pas. Parmi ces moments qu'on n'oublie pas, c'était le vendredi après-midi, fin d'après-midi, lorsque papa allait accueillir le Shabbat. Mais ce n'est pas une blague. L'Echa Dodi Likrat Kala. Elle raconte que papa sortait du Yishuv et s'avançait vers les montagnes. Et nous, on essayait de se faufiler pour savoir ce qu'il faisait, à qui il parlait. Il montait dans les montagnes et quand il redescendait, son visage éclairait tous les vendredis soirs. La grandeur du Rav Goetz commence un tout petit peu à être reconnue. Sauf que là, va arriver une étape dans sa vie qui va, bah tout sympa, j'allais pas dire changer sa vie, mais faire prendre une autre dimension. Là, il va monter dans les sphères qu'il n'aurait pas pensé. 1967. La guerre des six jours éclate. Il reçoit évidemment un tsav milouim. Il est enrôlé en tant que ktsin totranim et il part à la guerre. Nous sommes en 1967. Vous imaginez, il est né en 1924, donc il a à peine 43 ans. Mais sauf qu'à la maison des Goetz, il n'est pas le seul à recevoir un tsav milouim. Un autre de la maison part à la guerre. Et oui, pour lui, aller servir Israël dans les rangs de Tsahal, c'est une évidence. Et donc, c'est pas seulement pour lui, mais il l'a transmis à ses enfants, Avner, son fils aîné, Echayal be Nachal Mutznach. Il est donc affilié au combat de Jérusalem avec l'unité des parachutistes. Avner participe au combat de Jérusalem. Ils vont faire partie de l'unité qui va partir libérer tout simplement la ville. Mais à ce moment-là, alors qu'ils sont à l'endroit même qui s'appelle Chatzar HaMatara, c'est-à-dire l'endroit même où Yirmiyahu HaNavi, 2500 ans plus tôt, était retenu en prison, juste à côté du musée Rockefeller, eh bien, il y a une erreur de nivout, une erreur d'aiguillage de son unité qui va faire qu'au lieu de se retrouver juste devant le musée Rockefeller, il se trouve devant tout simplement Shaar Shrem, et là-bas, derrière Shrem, il y a des tirs dans tous les sens. Lui, Avner, Goetz et Chablan, il est toujours en première ligne. Et à ce moment-là, eh bien, Avner va tomber sous les balles de l'ennemi. Avner meurt pendant le combat pour Jérusalem. Au moment où le Rav est mis au courant que son fils est tombé, il dira une phrase absolument terrible, terrible de profondeur. Il dira « Ashrei ani shezachiti ve oili shezachiti. » Ashrei shezachiti ve oili shezachiti. Oi, terrible que j'ai eu le mérite que mon fils tombe pour Jérusalem. Mais Ashrei ani que mon fils est tombé pour Jérusalem. Avner va tomber le 27 Iyar. Mais le temps que les informations parviennent à la fin de la guerre, eh bien, la famille Goetz ne sera mise au courant de la chute de Avner que le 2 Sivan. La famille va prendre le deuil pendant 3 jours. Au bout de ces 3 jours, le Rav se tourne vers sa femme et ses enfants et leur dit, maintenant, vous allez aller vous doucher, vous allez aller cueillir des fleurs pour décorer la maison et vous allez vous habiller de fête, car c'est Chag HaShavuot. Et ses filles répondent, enfin, elles témoignent plus tard que personne n'a réussi à se lever. Mais papa nous a montré comment se lever. Et elle raconte comment le Kiddush de Leil Shavuot était empreint d'une tristesse, mais en même temps d'une reconnaissance profonde. Papa pleurait pendant le Kiddush et on n'arrivait pas à savoir si c'était de joie parce qu'on était revenu à Jérusalem ou si c'était la peine d'avoir perdu Avner. Pendant l'année qui va suivre, eh bien, papa et maman Goetz vont faire toutes les semaines des allers-retours à Jérusalem pour aller sur la tombe de Avner au Har Herzl. Mais petit à petit, le Rav comprend qu'à partir de maintenant, il ne peut plus être seulement le Rav du Yishuv de Kerem Ben Zimra. Il comprend que désormais, il doit prendre la responsabilité de celui qui est tombé à Jérusalem, pas seulement Avner, mais tous les enfants de Jérusalem qui sont tombés pour les combats de Jérusalem. Il décide de venir faire partie de ceux qui vont construire Jérusalem. Il part de Kerem Ben Zimra et vient s'installer à Jérusalem. Rabotai, lorsqu'il vient s'installer à Jérusalem, on est à peine 8 mois après la guerre des 6 jours et dans les journaux israéliens commence une séara, commence une machloquette terrible. Le Kotel n'a rien à voir avec les religieux. Le Kotel est un mur archéologique. Le Kotel est un endroit qui a été libéré par Tsahal et aucun religieux n'a participé à la libération du Kotel. Donc il est hors de question que ça devienne un lieu de prière. C'est un lieu archéologique comme tant d'autres. Voilà ce qui est publié dans le journal Haaretz. Le Rav Goetz, qui maintenant fait partie des habitants de Jérusalem, va demander un droit de réponse. Comme il est Av Shakoul, on lui donne le droit de réponse. Et il dit, comment pouvez-vous oser prononcer de telles paroles alors que mon fils, Avner, qui a fait la yeshiva de Kfar Aroé, et comme lui tant d'autres, qui étaient Yehudim Tzadikim Yireshamayim, sont tombés pour Jérusalem et Bichlal. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir qui a libéré Jérusalem ? Jérusalem n'appartient ni aux religieux, ni aux non-religieux. Jérusalem appartient au peuple juif. Le lendemain de la parution de la réponse du Rav Goetz, le Sar Hadatot de l'époque l'appelle à une pgisha. Et il lui dit, lorsqu'il rentre dans le bureau, il ne le laisse même pas le temps de se présenter. Il lui dit, Ata ti'es Rav HaKotel. c'est toi qui seras le Rav du Kotel. Le Rav Getz dit, j'ai pas choisi ce rôle. Akadosh Baruch Hu a choisi ce rôle pour moi. Et à ce moment-là, le Rav Getz devient le Rav Akotel. Mazé Rav Akotel. Vous savez comment il décrit son rôle de Rav Akotel ? Je vous cite. Dit le Rav Getz que Rashi nous enseigne que les murs du Kotel ont des oreilles. La Shrina qui est présente là-bas entend toutes les tfilotes. Mais le problème du Kotel, c'est qu'il a des oreilles, mais il n'a pas de bouche. En tant que Rav Akotel, je deviens la bouche. Je deviens la bouche qui va donner des paroles réconfortantes à tous ceux qui viennent. L'ishpoch et siham bamakom azeh. Mais il n'est pas du tout le Rav du Kotel seulement. Il n'est pas seulement le Rav du Kotel, il n'est pas seulement le psychologue du Kotel. Tous les rabbins qui ont une misra, qui ont un rôle officiel, ont un secrétaire. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent venir voir le rabbin. Le secrétaire, son rôle, c'est de faire un petit peu vérifier qui a besoin de rentrer, qui n'a pas besoin de rentrer. Le Rav Getz refuse d'avoir un secrétaire. Son bureau sera face à la Rechavat HaKotel. La porte sera tout le temps ouverte. Je n'ai pas à refuser quelqu'un qui veut venir voir le Rav du Kotel. Je ne suis pas, il n'est pas à mon service, je suis à son service. Mais là, je suis en train de vous parler du Rav Getz de la journée. Parce qu'il y a le Rav Getz le jour et il y a le Rav Getz la nuit. C'est pas le même. Le Rav Getz la nuit, c'est pas le même que le Rav Getz le jour. Le jour, il est le Rav HaKotel, Rav HaMekomot HaKdoshim. La nuit, à 11h30, le Shamash du Rova Yehudi et du Kotel, il vient toquer à la porte du Rav Getz. Le Rav Getz habite collé à ce qu'on appelle les quatre Bat Knesset Asfaradim dans la vieille ville. Sa maison est collée. À 11h30, il sort de chez lui. Et après un petit tour au Mikvé, il va retrouver ce qu'il appelle ses Chaverim Toranim, ses amis Toranim. Et ben vous savez quoi ? Avant de vous dire, je voudrais que vous l'écoutiez. Je vais vous passer un enregistrement du Rav qui répond à une question par rapport à sa vie nocturne. Écoutez bien.
Attendez, voilà.
Le Rav Getz, lorsqu'il sort du Mikvé, il va retrouver ses Chaverim Toraniim et ils étudient. Quand on lui pose la question, je ne sais pas si vous avez bien compris, hein, quand on lui pose la question, mais vous étudiez quoi ? Il répond, Torah. Et là, le Merayen, il lui dit, Torah ta Kabbalah ? Torah ta Kabbalah ? Hein ? Et il dit, Torah. Et là, il demande, à Rav Getz, à ta Mekoubal, que les choses soient bien claires. Le Rav Mordechai Eliyahu dira de lui Gdol HaMekoubalim. Alors on lui demande, à ta Mekoubal, est-ce que tu es un Mekoubal ? Et le Rav Getz répond, Mekoubal Almi. Il dit, ah, mais Mekoubal, Mekoubal Almi. Il dit, Ani menase mishtadel lahavin mashehu. J'essaye de comprendre deux, trois trucs. Et le Rav Getz de la nuit va participer à une des pages les plus importantes de l'histoire d'Israël. Nous sommes en 1969. En 1969, Rabotai, on est donc bien après la guerre des six jours. Ça y est, on y est, on est à la maison. À ce moment-là, il va se passer quelque chose. En 1969, le Rav Getz, en plein été, voit les gens qui prient au Kotel et qui ont très chaud. C'est-à-dire, en été, ils ont chaud. En hiver, il peut faire très froid. Il faut trouver une solution. Nous, en ce moment, en période de corona, la solution, c'était de sortir des endroits fermés pour aller dehors. Mais lui, il n'est pas à l'époque du corona. Lui, le problème, c'est que des fois, il fait trop chaud, des fois, il fait trop froid. Donc, il se dit, il faut préparer un endroit fermé qui les protégera de la chaleur et du froid. Où est-ce qu'on peut aller? Ah ben, c'est pas compliqué. Je sais qu'il y a un endroit en dessous de la Markame. Markame, c'est un binyan turc qui est présent à l'entrée du Harabait. Et donc, il dit, on va creuser en dessous de la Markame parce qu'il y a un endroit là-bas et on peut se faire une petite synagogue là-bas tranquille. Et c'est donc lui qui va commencer et lancer, en tant que Rav HaKotel, qui va lancer les chafirot, les fouilles de ce qu'on va appeler Minarot HaKotel. Au départ, c'est pas du tout les fouilles des Minarot HaKotel. C'est simplement de quoi agrandir un tout petit peu l'espace qu'il y a de toute façon sous la Markamé. Mais quand il commence, il se rend compte qu'en fait, il voit le mur du Kotel. Il se dit, mais attends, mais ça veut dire que le mur du Kotel, il continue. Et donc commencent les fouilles des Minarot HaKotel. C'est le Rav Getz qui va lancer les fouilles des Minarot. Et plus il avance, et plus il comprend ce qu'il est en train de faire. Il comprend ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire, c'est tout simplement, pas seulement dévoiler l'histoire du peuple juif au peuple juif, mais arriver à toucher du doigt Bet HaMikdash. Je dis le Rav Getz, il y a des gens qui ne croient pas qu'il y avait ici Bet HaMikdash. Si on arrive à trouver les clés à Kodesh, si on arrive à trouver ici les ustensiles du Bet HaMikdash qui ont été cachés, alors c'est bon, on aura calmé tout le monde. Et les fouilles du Kotel ne se font jamais sans lui. Les fouilles des Minarot à Kotel ne se font jamais sans lui. Il est tout le temps présent. Et dès qu'on découvre un autre endroit, il s'y arrête toute la nuit et va dire Tikkun Chatzot là-bas. Les gens lui demandent, mais pourquoi c'est quoi ces fouilles? Pourquoi elles sont tellement importantes? Il prend à ce moment-là de la poussière qu'il y a au sol des Minarot qu'on est en train de creuser. Il dit, vous voyez ça? Soulever cette poussière-là, c'est ma chère Zohar Omer, l'Hakim Shrinta Me'afara. Faire se relever la shrina de la poussière d'Israël. C'est ça qu'on est en train de faire ici. Alors que les fouilles continuent, un jour, il reçoit un coup de téléphone. Le responsable des fouilles le cherche partout. On est en pleine journée. Donc il est en train de s'occuper des problèmes du Kotel. À ce moment-là, on vient le chercher. On vient le chercher tout de suite. Makara, on vient de trouver un pétard. C'est pas simplement une arche, c'est une porte. Le Rav Getz qui a étudié tout ce qui pouvait être étudiable en archéologie de cette époque-là, Flavius Joseph et tout ce que tu veux. On vient de retrouver le Sha'ar à Kohanim. La porte par laquelle les Kohanim arrivaient directement au Beth Amikdash. Il commence à fouiller. Il commence à fouiller, mais non. On l'arrête. On l'arrête, on lui dit non, non, non. On va mettre une synagogue à côté si tu veux, mais on ne va pas là-bas. Comment ça, on ne va pas là-bas? Qui lui demande d'arrêter? Celui qui lui demande d'arrêter, c'est le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch lui envoie une lettre en lui disant « Il faut que tu arrêtes. » Il faut que tu arrêtes, c'est pas le moment. Il accepte. Il accepte le din du Rabbi de Lubavitch. Sauf que, 5 ans plus tard, alors qu'on est en train de mettre en place une synagogue à l'endroit qui avait déjà été fouillé, on essaye de creuser un tout petit peu dans le sol pour mettre en place le Aaron à Kodesh, pour pas qu'il tombe et tout, qu'il soit bien en place. Seulement, dès qu'on commence à creuser, on perce un trou qui va dévoiler un couloir. Et là, le Rav Getz, il dit, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas de ma faute. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est sûr. C'est sûr. Il a voulu qu'on trouve ce couloir. Donc, il faut y aller. Et il sait quel est ce couloir. Il en est persuadé. Il en est persuadé, le Rav Getz, que c'est au bout de ce couloir qui mène Mamash en dessous du Kodesh HaKodashim. C'est là-bas que Yoshiyahu Melech Yehuda, d'après le Talmud, a caché le Aaron Abrit. C'est sûr, on va y aller. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, ce qui est en train de se jouer sous la surface du sol est dévoilé par la radio de Kol Israël. Et à ce moment-là, les Arabes se réveillent. Ça crée des méoumotes pas possibles à Jérusalem. Et l'État d'Israël fait une erreur, à mon sens, mais ça c'est que à mon sens, et décide, pour calmer tout le monde, d'arrêter complètement les fouilles, de bétonner l'entrée de ce couloir. Et comme ça, c'est terminé. En face, on créera une synagogue qui s'appelle aujourd'hui Bet Knesset Arav Getz. Mais le Rav Getz ne voulait pas la synagogue d'à côté, d'en face. Il voulait revenir à l'endroit. Malahasot. Alors, puisque c'est comme ça, eh bien, on va s'occuper d'un autre projet. L'autre projet s'appelle, ah oui, à Kotel. Il est le Rav du Kotel. Mais à ce moment-là, au moment où il commence à prendre le boulot à cœur, il doit prendre une décision. À quoi va ressembler Rechavat à Kotel? La place, l'esplanade du Kotel. Est-ce que ça va devenir une grande synagogue? Ou est-ce que ça va devenir la Rechava qu'on connaît aujourd'hui? Alors que tous les rabbins font pression pour que ça devienne une synagogue, avec tout ce qu'il y a de plus synagogue. Le Rav Meir Yehuda Getz, avec sa Hadrat Panim, son Chiyuch Atzum, il dit, mais vous n'avez pas compris. Dans une synagogue, les gens y prient avec leur bouche. À Valba Kotel, il y a des gens qui prient avec leur bouche, mais il y a des gens également qui prient avec leurs pieds, qui viennent ici et c'est ça leur tfilot. Rechavat HaKotel lo yeh bet knesset. Rechavat HaKotel sera la Rechava du peuple juif. Grâce au Rav Getz, aujourd'hui, au Kotel, ne se retrouvent pas seulement des gens qui viennent faire la tfila, mais le Kotel est devenu l'endroit où tout le peuple juif et tous les membres des représentants des nations viennent également. Il en a rencontré des dirigeants en tant que Rav du Kotel. Il en a rencontré des chefs d'État. Il en a rencontré des hommes politiques. Tout il a rencontré. Bon, ça a arrangé qu'ils parlaient une dizaine de langues, comme ça ils pouvaient tous leur parler dans leur langue. Et ils étaient tous choqués. Comment le Rav du Kotel sait tant de choses? C'est pas possible. Un jour, on vient le chercher, Bébé Allah, un groupe de moines tibétains, Ovde Avodazara, la Méhadrine, arrive au Kotel et ont commencé à sortir leurs encens, leurs ktorets, leurs trucs de Avodazara, des statues, mamash, des psalim de Avodazara. Et on court dans le bureau du Rav Getz. Oy va voy, shumu shomaim, regardez ce qui... Aujourd'hui, ça n'arriverait pas. Parce qu'aujourd'hui, les policiers à l'entrée du Kotel vérifieraient tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Que faire? Des ovde Avodazara au Kotel? Ben, il n'y a pas 36 solutions. On peut les dégager. On peut les dégager. Non, 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 le Rav Getz, ce n'est pas sa chita. Le Rav Getz, il dit, attendez 5 minutes, je reviens. Mais quoi? Il revient 5 minutes plus tard, il dit, c'est bon, j'ai réglé le problème, vous allez voir. C'est quoi, vous allez voir? Il a tout simplement monté les marches pour aller à la Yeshivat HaKotel. Et il a fait descendre toute la Yeshivat HaKotel et il a mis tous les élèves de la Yeshivat HaKotel en espèce de mur protecteur qui a entouré, qui a fait une espèce d'arc-en-ciel entre le Kotel et les Ovdei Avodazara. Et les gens lui ont demandé, mais en quoi ça va aider? Il dit, vous n'avez pas compris, ces gens-là, ils ne croient que ce qu'ils voient et ils servent ce qu'ils voient. Ils ne voient plus le Kotel, ils partiront dans 5 minutes. 5 minutes plus tard, ils avaient rangé leurs affaires et ils sont partis. Arav Getz, ze Oef Shalom, Verodef Shalom. Aval, attention, sans aucune facilité. Il y va jusqu'au bout. Rav Getz a donné un pérouche extraordinaire sur la Gemara dans Masechet Ta'anit qui nous dit que Dieu a prêté serment qu'il ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en haut tant qu'Israël ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en bas. Ça, c'est le Talmud. Le Rav Getz écrit un livre qui s'appelle Rishpe Esh. Esh, au nom des initiales de son fils, Avner Shalom. Et dans son livre-là, il explique que la Jérusalem d'en bas, c'est Jérusalem. C'est la Jérusalem qu'on connaît tous. Mais c'est quoi la Jérusalem d'en haut ? Il dit la Jérusalem d'en haut, c'est tout simplement un sac avec des neshamot. Mais pas n'importe quel neshamot. Les neshamot propices à recevoir la prophétie. Les neshamot que HaKadosh Baruch Hu a arrêté de donner après la destruction du premier temple, il a promis qu'il ne recommencerait pas à les donner tant qu'Israël ne serait pas revenu dans la Jérusalem d'en bas. Il dit le Rav Getz, donc depuis la guerre des six jours, tous les juifs qui sont nés après la guerre des six jours recommencent à recevoir ces neshamot extraordinaires. Et un jour, on lui a demandé, mais elles sont où toutes ces neshamot dont vous parlez ? Nachon, tu as raison, tout à fait raison. Il écrit un deuxième livre, exactement, qui s'appelle Getzé Torah. Nachon, c'est un commentaire du Chumash, bien sûr. Et on lui demande, mais ils sont où ces neshamot dont vous parlez ? On lui demande ça le jour de Yom Yerushalayim. Et il voit tous les jeunes avec les kippot srugot qui sont en train de danser Bakotel, le jour de Yom Yerushalayim, les drapeaux dans tous les sens. Il dit, ben allez, voilà. Elles sont là, ces neshamot extraordinaires. En 1973, juste après la guerre de Kippour, le Rav Getz rentre dans un nouveau projet. Il est le Rav à Kotel, mais maintenant, il pense que cette Torah qu'il étudie la nuit doit retrouver un endroit. Je dis retrouver parce qu'elle avait un endroit, mais cet endroit a été détruit, abandonné lorsque les Jordaniens étaient là. Il y a une yeshiva dans les murailles de la vieille ville qui est depuis déjà près de 250 ans la yeshiva Tamekoubalim de Jérusalem. Yeshiva Tamekoubalim Bethel. En 1973, le Rav Getz commence à en prendre la direction et à la remettre en état. Il devient donc Rosh Yeshivat Amekoubalim Bethel. Fort de cette réalité-là, eh bien, c'est toute une nouvelle ambiance qui se met en place. La yeshiva, pendant 20 ans, est une yeshiva, mais qui est quand même dans un bâtiment délabré. Elle fonctionne, bien sûr. D'ailleurs, ne sont acceptés à la yeshiva, pas tout le monde, évidemment. Quel est le critère ? The critère pour être accepté à la yeshiva de Yeshivat Amekoubalim Bethel, il y a un critère. Oh, les connaissances de Torah, évidemment qu'elles sont importantes, mais quelqu'un qui n'aurait pas de connaissances n'essaierait même pas de rentrer dans cette yeshiva-là. Il y a un critère. Si tu n'as pas fait l'armée, tu ne rentres pas. Car me dit le Rav Getz, pour comprendre Torah Tassod, tu ne peux la comprendre que si toi-même, tu es rentré dans cette dimension de Messirut Nefesh pour le peuple juif. Et il n'y a pas de personne qui a fait Messirut Nefesh plus qu'un soldat. Seuls ceux qui ont fait le service militaire complet peuvent venir étudier dans les Shivat HaMekoubalim Bethel. Rav Meir Yehuda Getz, Rav HaKotel, Rav Mekomot HaKedoshim, celui qui s'est parlé avec tout le monde. Au début des années 90, décide que cette yeshiva doit retrouver une splendeur. Pendant 20 ans, il a réuni shekel après shekel. Et au début des années 90, il commence à avoir véritablement la possibilité de rénover la yeshiva de fond en comble. Alors, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, tout simplement. Il va commencer à rénover la yeshiva. Il va commencer à rénover la yeshiva. Son fils va l'aider. Son fils, le deuxième, qui s'appelle... Attends, il faut que je te le retrouve. Comment il s'appelle, le fils du Rav ? Je vais te le retrouver dans deux secondes. Il s'appelle Ah là là, je ne me rappelle plus. Ah là là, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Ah là là. Il faut que j'essaie de retrouver ça tout de suite. Yahir. Yahir. Nouriel. Nouriel, tu as raison. Merci. Yahir, c'est le sixième. Nouriel. Nouriel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nouriel. Non, justement, ce n'est pas Yahir, c'est Nouriel. Yafemot. Todaraba. Nouriel va l'aider, c'est lui pendant toute l'année de rénovation de la yeshiva, c'est lui qui est là, c'est lui qui est chaud patate pour l'inauguration de la yeshiva. La veille de l'inauguration de la yeshiva, le matin en fait, le matin de l'inauguration, juste avant de commencer les festivités, il appelle son fils, lui dit de venir avec lui dans le Beit HaMidrash. Le Beit HaMidrash, ce fameux Beit HaMidrash qui va être inauguré, ça y est, tout flambant neuf, tout beau, tout flamme, qui va être inauguré dans quelques minutes, dans quelques heures peut-être, j'exagère un peu. Je cherche juste un petit truc, bon, l'Homme Chané. Je voulais vous montrer un petit truc, mais c'est pas très grave, l'Homme Chané. Il appelle son fils à ce moment-là, lui dit de s'asseoir à une des places, relève le couvercle là de là où on peut ranger les livres et les talitot. Et il dit à son fils, tiens, nous sommes à quelques jours de l'inauguration, quelques heures de l'inauguration, c'est vrai, mais à quelques jours de Rosh Hashanah. Et il lui dit, j'aimerais que cette année, tu pries avec mon talit pendant Rosh Hashanah. Papa, ton talit? Oui, je voudrais te remercier que toute cette année, tu as été à mes côtés et tu m'as aidé à faire en sorte que la yeshiva puisse renaître. Je voudrais que tu portes mon talit à Rosh Hashanah. Rosh Yeshiva Tamekoubalim, les amis. Rosh Yeshiva Tamekoubalim, il sait exactement de quoi il s'agit. Il demande à son fils de porter son talit parce qu'en fait, il lui demande, et son fils ne le sait pas, il demande de prendre sa succession. Le Rav Getz mourra 3 jours, seulement 3 jours, après l'inauguration de la yeshiva. Mais quand on parle d'inauguration, mais quelle inauguration? En 1995, lorsqu'il y a l'inauguration de la yeshiva, tout le monde est là, Rishon Etzion, extraordinaire. En plein milieu des festivités, il demande au Kablan, à l'architecte qui a fait les plans de la nouvelle yeshiva et tout ça, il dit viens. Et il est Koren Be'od Ve'Adar. Et il lui dit, j'aimerais que tu viennes me voir demain et que tu me dessines des plans pour le Beit HaMikdash. Et là, il lui dit, ma, les plans pour le Beit HaMikdash? Mais t'as rave, on va pas construire le Beit HaMikdash, c'est pas prévu. Il dit, non. Amène-moi les plans pour le Beit HaMikdash. Et il ne comprend pas, lama. Et là, le Rav lui dit, on ne va peut-être pas construire le Beit HaMikdash, mais on peut construire une autre étape dans le rêve. Ot koma bachalom. Otaï Rav Meir Yehuda Getz. L'homme qui avait décidé de s'habiller comme un chassid, lui qui venait de Tunisie. Mais un chassid blanc. Si je devais faire une comparaison, je dirais qu'il est le chevalier blanc de Jérusalem. Il est cet homme qui était Mekoubala Eloki, qui était Rav Gadol Posek Anak, qui était Lochem Atsum, qui était Rav Pealim, qui était celui qui a rendu à Jérusalem toute sa grandeur. Il est devenu le papa de Jérusalem. Lui, le petit enfant de Tunis, il est devenu celui qui a raccompagné la résurrection du peuple juif. J'aimerais vous montrer 2 secondes. Je vous mets le son. Si vous arrivez à voir. Voilà le Rav qui est en train de monter à la Yeshiva.
שמחה אמיתית ממלאת את ליבו ואת לב התלמידים והאורחים.
Volontairement pour l'instant je vous laisse. Je vous laisse volontairement ici. Je vous laisse également ici. On est en pleine inauguration de la synagogue de la Yeshiva. Et au moment où il entend la chanson de Yerushalayim, le rave, personne ne comprend. Il se met à pleurer. Le Rav se met à pleurer pour une raison très simple. Il a compris. Il a tellement donné pour Jérusalem. Il a tellement fait en sorte que Jérusalem devienne Oro Shel Olam. Il aurait tellement voulu réaliser le rêve de retrouver Aaron Abrit et de finalement pouvoir construire le Chalom du Beit HaMikdash. À ce moment-là, je ne suis pas dans sa tête, mais il comprend certainement qu'il n'y arrivera pas. Il a tout donné pour Jérusalem. Jérusalem sera pour lui à jamais le combat de toute une vie. Rav Meir Yehuda Getz. Alors, ici on nous dit, j'ai parlé avec sa fille et Jeva, elle m'a dit que de nombreux rabbinim le considèrent comme le Rav Kook, Malach Hashem Tsevaot, Mamash Kacha, Mamash Kacha, Malach Hashem Tsevaot. C'est exactement ça le Rav Meir Yehuda Getz. J'ai eu la chance d'étudier avec l'un de ses élèves, le Rav Yaakov Naon, qui nous parlait sans cesse du Rav Getz comme étant Pashut Malach, Malach Hashem. Rav Meir Yehuda Getz, et je terminerai par là. Lorsqu'il entend la chanson de Jérusalem, on a dit, il se met à pleurer. Parce qu'il comprend que peut-être, lui n'arrivera pas à réaliser la fin du rêve. Mais finalement, il nous a laissé léguer, eh bien, tout simplement, la responsabilité de poursuivre son rêve. Ce jeune rabbin de Tunis, qui est devenu le chevalier blanc, de Jérusalem. Arav Meir Yehuda Getz, Meir HaKotel, la lumière du judaïsme. Chazak ou Baruch à tout le monde, ve'erev tov, lekulam, la semaine prochaine, rendez-vous pour un nouveau personnage extraordinaire du peuple juif.
Extraordinaire, merci beaucoup.
Merci.